toi depuis plus de 2 jours. Dans ma chambre étudiante, je commence à faire des petits tours.
Hey, sors de chez toi un peu là. Hey!
Si tu continues à me cacher,
hey,
ta vie privée.
Et tu nous que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Un jour, un élève a défini la dissonance comme des sons qui semblent en désaccord et qui produisent un frottement dans l'assistance. Une définition qui semble sortir du scolairement correct sans être exactement fausse, elle serait même raccord avec une représentation traditionnelle de la dissonance, c'est dire si les copies de certains élèves tenus pour décrocheurs peuvent recouvrir une force de vérité particulière et donc intéressante. Mais pour aller encore plus loin que le seul charme des approximations inspirantes, ce numéro décroché de métaclassique va tenter une substitution. Au lieu d'en rester à la vision désespérée du décrochage scolaire qui veut qu'un certain nombre d'élèves ne voyant plus l'ascenseur social au fond du couloir du collège ne voit plus non plus pourquoi il s'accrocherait, nous allons tenter de développer une vision autrement vertueuse du décrochage. Tout le jeu va être de trouver une beauté au hors-sujet, d'apercevoir un horizon d'éveil désynchronisé, vague, rachachant, au nom duquel les profs eux-mêmes viennent à décrocher des préconisations des textes officiels. Pour ce faire, nous mettons en dialogue 2 profs, Annie Ducol, qui a été prof de musique en collège et lycée, qui est actuellement à la retraite, et Guillaume Gévray, qui enseigne le français en lycée et signe un léger désordre aux éditions Corti. Et comme cette émission va durer à peu près le temps d'un cours, je vous annonce que je vous réserve une surprise à la fin de l'heure, c'est-à-dire dans 56 minutes. Stéphanie Azzurro au piano et Adélaïde Ferrière au marimba dans cette version donc marimba piano de la danse macabre de Saint-Saëns. Bonjour Annie Ducol.
Bonjour.
Un jour dans l'une des copies de vos élèves, vous avez lu un poème symphonique, c'est des squelettes qui touchent les uns aux autres.
Exactement, c'est bien ce que vous venez de nous faire entendre.
Oui, parce que donc votre élève, pensant poème symphonique, pensait spécifiquement à la danse macabre. On a l'habitude effectivement d'y entendre des squelettes qui touchent les uns aux autres, ça veut dire que c'est pas faux?
Ah non, bien sûr que non, c'est pas faux, mais souvent c'est, je vais pas dire subtil, mais c'est vraiment des choses auxquelles on n'aurait pas songé. Dommage, parfois. Par exemple, Charlie Chaplin, c'est une musique muette. J'aime beaucoup ça.
Et ça, ça vient du fait que, oui, c'est de la musique visuelle, comme on l'a dit dans les années 1920.
Oui, c'était des films
muets. Il y a des choses fausses. Hein. Maurice Ravel est né en 1953 et il est mort à 3h30 du matin. Ça, c'est peut-être vrai.
Oui, bon, ça, c'est peut-être vrai. Je ne sais pas, j'avoue.
Ce qui m'a frappé à propos de Ravel, vous écrit un élève, c'est qu'il avait 2 mains gauches.
Oui, eh oui. Bah, que voulez-vous ? C'est ce qui l'a frappé. Hein. Je leur demandais ce qui l'avait frappé dans ses recherches personnelles. Donc, il a dû un petit peu... Ils ont beaucoup de mal à dissocier le compositeur de l'œuvre. Par exemple, j'ai trouvé aussi beaucoup de choses sur Berlioz, qui s'est fait guillotiner, comme vous savez. Et puis, sa tête est tombée dans un panier, enfin, qui faisait allusion, bien sûr, à la Symphonie Fantastique. Mais ils ont beaucoup de mal à imaginer que Berlioz n'est pas mort décapité.
Il y a une chose très belle sur la symphonie fantastique de Berlioz que vous écrit un élève. La symphonie fantastique m'a intéressé car cela m'apprend que l'amour ne fait pas le bonheur.
Eh oui. Ils apprennent, hein. Ils apprennent la vie en cours de musique.
Alors, ils apprennent la vie parce que vous leur demandez ce qui m'a frappé ou ce qui m'a intéressé. Donc, c'est-à-dire que vous les mettez à un endroit d'écoute qui n'est pas que celui de restituer des connaissances que vous leur avez apprises.
Ah non, mais je ne suis pas non plus maso. Enfin, je sais bien que les connaissances que je peux essayer de leur faire acquérir et qu'ils arrivent à acquérir, il ne faut pas exagérer, sont parfois un petit peu artificielles pour eux. Or, l'émotion en cours de musique, et puis en cours en général, c'est quand même très important, et le partage de l'émotion, je me sentirais un petit peu à côté de mon rôle si je n'étais pas capable aussi d'entendre ce qu'ils ont à me dire des œuvres que je leur passe, quelles qu'elles soient.
C'est-à-dire que toutes ces maladresses, pour ne pas forcément dire perles, précisément témoignent de ça, c'est-à-dire de un sentiment d'artificialité à l'endroit de certains savoirs et en même temps peut-être un petit malaise à savoir comment dire l'émotion qu'on a quand même sincèrement ressentie.
Oui, mais n'empêche qu'ils la disent l'émotion. Oui. Et parfois ils la disent de manière très intelligente à laquelle, enfin, avec des exemples auxquels on n'aurait pas pensé. Alors bien sûr, il y a d'autres choses un petit peu moins évidentes comme un carillon est une gamme ascendante par exemple pour rester dans le carnaval des animaux
ouais.
Des choses comme ça,
ça
le piano cool, alors ça c'est dommage parce que c'est le piano cool.
Mais un carillon c'est une gamme ascendante, vous pensez que ça vient de quelque chose qui a été mal compris de ce que vous avez montré?
Oui, parce que je leur passe des extraits, je leur dis ouais. Quel extrait reconnais-tu et comment fais-tu pour le reconnaître, donc là c'est plus difficile. Mais bon, il y a beaucoup de... En dehors des mots d'amour, des antisèches, des analyses un petit peu décalées, dont j'ai effectivement une grosse collection, c'est vrai.
Toute une carrière
oui, toute
à
une
collectionner.
Ou ouais. Parfois, ils réutilisent des mots pour me faire plaisir, hein, mais à côté. Mais...
Alors ça, c'est très important qu'il y ait une part pour vous faire plaisir. Quoi. J'aime la musique classique, surtout de Molière.
Oui, bon...
Dans
on était au collège Molière là. À cette
ah oui, c'est pour
hein.
ça.
Mais bon, c'est pas une raison.
Et alors,
justement.
Parfois, il y a une créativité imparable. Le tuba est issu d'un croisement improbable entre une trompette hypertrophiée et une usine à gaz. Le premier exemplaire aurait été en réalité découpé dans une façade du centre Pompidou. Après la découpe, les chutes sont utilisées pour la plonger en eau peu profonde et conservent le nom de l'ensemble.
Oui. Alors ça, je pense que c'est du direct internet mal digéré, c'est-à-dire que je pense que je leur demandais d'écrire quand même. Donc
mais trompette hypertrophiée, c'est pas sur Google, ça, si ?
Oh, je pense que si.
Ouais.
Je pense que si, parce que sinon, ils ont quand même des formules plus personnalisées, comme vous avez pu lire.
Oui.
Voilà. Il y a ces perles-là, il y a des analyses, comme vous venez de dire, des mots d'amour, des mots de haine aussi entre eux,
ouais.
Des rêves d'avenir aussi, je ne sais pas si vous avez
les
lu
rêves
aussi,
d'avenir, oui, on pourrait en parler, parce qu'effectivement, il nomme des métiers auxquels vous vous attendez surtout pas, comme espionne.
Oui, ça c'est leur rêve quand ils arrivent au collège. Ça c'était
en sixième.
Oui, ouais. C'est ça. Ça c'était en sixième. Après les plus grands, vous avez peut-être lu à la fin le rêve d'être stripteaseur.
Oui.
C'est plus très musical, à vrai dire. Donc je l'ai laissé avec dans son délire. Sinon, oui, vous avez, je pense, relevé divers rêves d'avenir, divers mots de haine ou d'amour. Là-dessus, c'est un deuxième niveau, si je peux enchaîner, qui est d'essayer, moi, de rester consciente de ma distance avec eux. Et puis aussi, de leur faire comprendre aussi parfois leur décalage quand c'est dans une attitude décalée. Ce n'est pas le contenu du cours là dont je parle, c'est leur attitude.
Alors, on parlera tout à l'heure des commentaires d'écoute qui, partant rien que de l'écoute, en effet, portent cette force de vérité dont je parlais en ouvrant l'émission. Bonjour Guillaume Gévray.
Bonjour.
Vous recevez quelquefois vous-même aussi des écrits. Alors, vous ne parlez jamais de perles dans votre livre Un léger désordre. Vous recevez des écrits qui n'ont aucun rapport avec la consigne, qui font qu'il n'y a aucune note qui est possible. Ça veut dire que ce sont des prises de parole qui se situent hors évaluation, hors prise aussi de contrôle en quelque sorte. Et donc vous y entendez d'office une affirmation abrupte.
J'entends par exemple, alors c'est surtout des prises de parole, donc en classe, pas forcément à l'écrit, même si je commence par un écrit hors sujet proprement dit, mais c'est l'idée surtout de marquer une interruption, d'être sensible même parfois quelques années après à des interruptions qui ont eu lieu et qui obligent d'un seul coup à voir autrement, à dire autrement, et auxquelles je donne une positivité même sans aller tout de suite à la conclusion politique, mais qui consiste à, au fond, ne plus être dans le rapport, y compris de demande, de dépendance au programme, par exemple, ou à l'exigence du professeur. C'est de s'inventer une possibilité de parler là où elle n'existait pas forcément, et de manière même un peu plus existentielle, se mettre à parler alors qu'on a du mal à parler, alors qu'on ne parle pas habituellement, en tout cas à l'échelle de ce cours, pas en dehors forcément. Mais
ça veut dire que leur sujet n'est jamais rien, puisque c'est déjà une parole, c'est déjà un acquis pédagogique.
C'est... Est-ce qu'il s'agit de l'inclure et comment l'inclure dans une méthode, ça, d'une certaine manière, je laisse un peu en suspens. Mmh. L'idée, c'est que ça vient dire quelque chose d'autre, parfois de surprenant, parfois de violent. Il faudrait donner peut-être un exemple, par exemple. Alors que je leur demande de repérer un détail inhabituel dans leur parcours, donc faire un travail sur le récit, faire jouer le quotidien, est-ce qu'il sort du quotidien.
Ça, c'est une consigne que vous empruntez à François Bon.
C'est une consigne que je donne, que j'emprunte, voilà, un atelier d'écriture. Apparaît d'ailleurs plein d'excellentes propositions. Mais ce qui apparaît à un moment, c'est la phrase « on est entouré de grillages, en fait ». De manière surprenante, dans une sorte de moment de suspens pour tout le monde. J'insiste sur l'idée que la plupart de ces prises de parole, elles arrêtent pas seulement mon attention, y compris mes projections ou mon imaginaire propre, mais un peu tout le monde, la plupart du temps. D'ailleurs, il n'y a pas de généralité vraiment possible. Et on est entouré de grillages, c'est dit d'ailleurs dans une espèce d'enthousiasme, qui est celui de la révélation, qui est celui de la perception qui se transforme. En tout cas, c'est comme ça que j'essaie d'en tirer, y compris une leçon plus large. Mais à nouveau, d'ailleurs, cet événement, là, on est entouré de grillages, qui est un événement de parole et un événement d'attention, il a besoin d'être confirmé. Il y a une sorte de petite scène qui, d'un seul coup, se déplace, qui centre l'attention et attire l'attention autour d'un élève qui demande à un autre, d'ailleurs, ou qui est confirmé par un autre, qui lui confirme ça, à la fois à l'échelle de l'architecture du lycée, à l'échelle de... éventuellement même de toute une série de zones de surveillance ou de contrôle, et qui d'un seul coup ouvre en effet une perception nouvelle, plus large, quoi. Mais chaque événement a sa propre condition, sa propre interruption, sa propre légitimité qui est prise sur, bon, sur une parole qui habituellement est plus difficile à élaborer. Ce qui fait qu'il n'y a pas un genre, une généralité du hors-sujet, mais une sorte de cas par cas qui est un peu, voilà, un peu difficile d'ailleurs à réunir. J'ai mis des années aussi pour ça. Qu'en faire? Comment l'inscrire dans... y compris des réflexions plus générales sur l'événement, par exemple.
Ça veut dire d'accueillir qu'il y a un rapport, même quand il n'y a pas de rapport. Vous reprenez au Foucault de Deleuze cette phrase « Comment expliquer que le non-rapport soit encore un rapport et même un rapport plus profond ?» Ce qui vaut pour vous comme une espèce de défi quand un élève dit quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce qui se passe ou avec le cours. Pour vous, ça a un rapport, simplement il est plus profond.
L'idée, c'était plutôt que de faire de ces exemples, enfin de ces événements, comme je les appelle, des exemples de la théorie, revenir à la théorie, y compris difficile, complexe, que j'avais traversé pour une thèse, notamment sur Deleuze. L'idée de revenir à ces enjeux-là de manière beaucoup plus concrète, de comprendre l'importance même un peu mystérieuse d'événements où, en effet, on se met à... parler d'autre chose, à s'arrêter sur un mot dans un texte qui évoque pour l'une ses origines maliennes, pour l'autre ses origines martiniquaises. Pourquoi le même mot apparaît à la fois au Mali et en Martinique? Ça leur permet d'un seul coup, en interrompant le cours avec insolence, de faire un rapport, qui en l'occurrence est historique, évidemment, l'esclavage. Pas du tout prévu par le cours de français, d'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'on n'allait pas en parler plus tard, parce que c'était un texte de Chamoiseau, où le mot Mabouya apparaissait, qui est le nom d'un lézard. Et donc d'un seul coup le cours même se fait, non seulement le rapport mais une sorte de construction pendant un certain moment qui est pris sur le temps du cours. Donc il y a quand même une sorte de prise de pouvoir, peut-être pas, mais en tout cas de prise sur l'idée qu'on peut être légitime en tant qu'enfant dans ces conditions-là, pas n'importe lesquelles, en Seine-Saint-Denis, dans un cadre bien particulier, social, et de difficultés sociales qui apparaissent sans arrêt dans ces prises de parole en question, mais à nouveau avec une sorte de, peut-être pas d'effusion, hein, c'est pas non plus une fête, mais de quelque chose qui prend de la valeur d'un seul coup, qui reprend une dignité à cet endroit.
Vous sollicitez aussi l'être et le néant de Sartre et vous dites de celui qui parle que, à la manière du captif sartrien, il peut projeter son évasion et s'apprendre à lui-même la valeur de son projet par un début d'action. Donc ça veut dire que, ce faisant, ils prennent confiance parce que vous l'accueillez tel légitime à l'être. Enfin,
je suis bien obligé de l'accueillir. Enfin, c'est-à-dire que ça,
ça c'est certain.
Ça m'arrête moi-même, ça me rend attentif autrement. Et cette idée d'évasion, de sortie, elle est un peu forte, elle est métaphorique, elle est, mais pas seulement. C'est intéressant de ne pas trop se mettre à associer sur ce « on est entouré de grillages » dont je parlais. Ouais. Tout de suite, une conscience très précise voilà, de tout ce qui enferme, y compris politiquement ou économiquement, etc. Mais l'idée qu'on puisse... par la parole, s'inventer déjà un espace pour soi, un temps pour parler, quelque chose qui devant soi se dispose aussi comme un avenir pour l'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça voudra dire? D'une certaine manière, ce serait à mon tour maintenant d'y penser, de pouvoir les capter. Mais par définition, ça se capte difficilement. C'est difficile d'y revenir, par exemple.
Parce que c'est toujours sur le vif.
C'est sur le vif. Ça suppose un après-coup. Évidemment, parfois plusieurs années pour essayer de l'inscrire sans l'interpréter trop. Mais ce qui est clair, c'est qu'à chaque fois, il y a une sorte de au moins de liberté de cette parole-là, qu'il débute quelque chose. Moi, je me mets à l'échelle d'un commencement, quoi, de quelque chose qui pourrait faire l'hypothèse, ça, essayer de voir quand ça commence, la prise de parole, qui est un grand thème politique, évidemment, omniprésent aujourd'hui. Quand ça commence, quand on se met à jouer avec les signes, à s'écouter, même pourquoi pas parler, dire cette phrase et, là, et s'inventer une attention différente, une adresse aussi différente.
On va faire un petit exercice d'écoute, Annie Ducol, pour voir comment vous avez sollicité les impressions que telle musique fait à vos élèves. J'aimerais qu'avant qu'on écoute la musique en question, vous nous présentiez la consigne et peut-être l'œuvre telle que vous l'avez présentée aux élèves. Est-ce que vous l'avez identifiée? Est-ce que vous avez dit
non.
C'est tel titre et tel compositeur?
Non, pas du
non
tout.
Alors on va pas le faire non plus. Et vous demandiez quoi à vos élèves?
Une première analyse à l'audition. Première écoute, premières impressions.
Guillaume Gévray, vous avez entendu quoi?
Premières impressions. Vous posez une colle.
Moi, au tout début, j'ai entendu une sonnerie du collège, en fait. Et après, je me suis dit, tiens, elle se met en réseau avec d'autres. Alors, vos élèves n'ont pas entendu ça. Ils ont entendu, la musique est construite comme un train. On dirait qu'il y a des arbres, ça c'est un autre. Un autre, quelqu'un sur le point de mourir qui revoit sa vie défiler à toute vitesse. C'est une musique qui se décompose sans éclater complètement.
Alors ça, faudrait c'est l'écouter magnifique. Jusqu'au bout, mais c'est extraordinaire
pour
par rapport
ouais.
au... Ouais. Puisque ça part vers l'aigu, et ça se raréfie, et c'est très, très...
Et donc, oui, ça se décompose sans éclater complètement. Voilà. C'est impatient et mystérieux, dit un autre élève, ou bien ce sont des palpitations cardiaques dans une ambiance insolite et froide. On est hypnotisé par les sons, on sent une tension, une ivresse de la musique. C'est un homme attaqué par des insectes. C'est un visage transformé peu à peu par une opération minutieuse de chirurgie esthétique, ou bien c'est du Picasso ou du Dali.
Oui.
Comment est-ce qu'on classe ces réponses quand on est la prof?
On classe?
Non, on les classe pas. On les accueille tout à égalité.
Non, mais on accueille. De toute façon, le rôle de prof, peut-être que c'est particulièrement vif en étant professeur d'éducation musicale, qui, comme vous le savez, est une matière qui est peu considérée à l'éducation nationale. Du coup,
c'est la dernière du bulletin, vous dites.
C'est oui, c'est celle de bas de bulletin. Il y a même des élèves qui m'ont dit, mais madame, quand je leur faisais une remarque sur leur attitude, qui me disaient, mais madame, vous étiez une mauvaise élève. Je dis, bah, enfin, bon. Et je lui dis, mais pourquoi? Bah, parce que si vous aviez été une bonne élève, vous seriez prof de maths. Et donc, que vous étiez mauvaise, vous êtes prof de musique. Bon, bref. Et donc, comme c'est une matière dans laquelle on a vite fait de perdre vraiment beaucoup... on est prêt à beaucoup de choses, disons. Quand on arrive dans une salle et qu'on dit « je suis prof de musique », et on a aussi des interventions orales assez manifestes, claires, rapides. Et donc, bah, dans ce métier, ce que je trouve intéressant, justement, c'est de donner ce qu'on sait, mais aussi ce qu'on est, et puis en échange d'écouter, de recevoir, d'entendre ce qu'ils ont à dire, et de rebondir, d'apprendre d'eux, et de repartir, de recommencer. Ça me donne d'autres idées pour faire écouter d'autres choses. Je leur demande ça pour qu'ils tiennent leur attention pour une musique qui ne va pas forcément de soi, qui n'a pas de repère, c'est le moins qu'on puisse dire, et aucun repère temporel là-dedans. C'est le même rythme du début à la fin, c'est le même instrument, ça va juste du grave à l'aigu et ça se raréfie vers la fin. Mais leur réaction, bon, c'était très intéressant, j'ai trouvé, même très intelligent. Et c'est vraiment des choses auxquelles on ne pense pas et que je trouve assez génial et sur lesquels je peux même rebondir pour repartir.
Alors c'est ça la question du rebond, c'est-à-dire qu'est-ce que vous en faites? Parce que c'est quand même difficile d'empêcher que ces différentes réponses se noient les unes dans les autres, c'est-à-dire de les accueillir toutes tellement à égalité qu'on ne peut pas finalement en ressortir telle ou telle pour rebondir, enfin.
Bah, ça dépend dans quel cadre c'est. Quand c'est.
C'était à l'écrit.
C'était à l'écrit. Moi, j'utilise l'écrit parce que l'oral en collège, en cours de musique à 30 gamins, est rapidement. déborde rapidement. Et donc, pour les obliger à se poser, réfléchir un peu et ne pas être dans. Il faut que je dise une bêtise plus importante que celle du voisin parce que sinon mon rôle est fichu. J'aime bien qu'ils écrivent quand même. Ça leur permet de se poser. Ça dure quoi, 3 minutes, cette œuvre? Et donc, ils peuvent écouter du début à la fin. Ils peuvent écrire une phrase chacun. Si c'est lors d'un contrôle, par exemple, où je pose toujours ou pratiquement toujours une question personnelle, mais je prends à égalité toutes les opinions que j'ai pu, à partir du moment où elles sont intelligentes, et même s'ils n'aiment pas du tout, même si je ne compte pas tu n'aimes ou tu n'aimes pas, mais c'est la pertinence de leur réponse par rapport à l'œuvre elle-même.
L'œuvre en question était Continuum de Ligeti, parce qu'on ne l'avait donc pas dit. Guillaume Gévray, quand vous écrivez, s'intéresser à la prise de parole comme événement signifie d'abord désespérer de tout contenu pour confondre cette parole avec ce dont elle témoigne, à savoir l'attention à ce qui passe, à ce qui nous traverse ou ce qui nous fixe. Ça veut dire d'espacer autant que possible les prises de parole pour qu'elles puissent prendre écho.
Concrètement, moi, je ne peux pas déterminer, enfin, je ne peux pas poser la condition d'une prise de parole de ce genre-là. Je ne peux que les recueillir. C'est ça le désespoir aussi du début. Ensuite, sur l'idée du contenu, ce qui va m'intéresser, je l'ai évoqué là, c'est ce contenu, mais aussi à... sa force d'interruption, justement sa surprise, c'est son mode d'apparition qui surprend, qui est justement à côté donc, du programme et de ce qu'on attend, qui est de l'ordre de l'imprévisible, et y compris pour les élèves eux-mêmes. Sur l'idée donc, de se rendre sensible, en fait ça vient de l'analyse littéraire, de se rendre sensible autant au contenu qu'aux sonorités, qu'au mode d'apparition d'un détail d'un seul coup surprenant, d'une connotation surprenante où un sujet s'inscrit par surprise. Comme dans un cours, en gros, on s'ennuie, d'un seul coup, une parole dit « je » ou « on » et exprime, au lieu d'expliquer, quelque chose comme, sans doute, évidemment, un contenu. J'analyse, j'évoque, enfin, ces contenus, mais aussi une sorte de manière de faire avec le langage. C'est là que l'idée de l'analyse littéraire a sa spécificité, peut-être, en plus d'une sociologie de terrain ou d'une étude de l'archive historique, qui serait de dire que se situer à cet endroit-là... suppose une écoute particulière, une attention particulière, mais qui n'a d'égal que l'attention elle-même des élèves. C'est là où ça se met à circuler, d'ailleurs. On se rend attentif avec eux, eux nous rendent attentifs. Il y a quelque chose qui se met à circuler, qui est justement une capacité d'être attentif et de formuler son attention.
Donc de faire lecture.
De faire lecture. Lecture, c'est étymologiquement sélectionné, donc c'est souvent une affaire de détails, de petites portions. Et pour moi, de petites portions de phrases aussi, donc des phrases courtes, parfois un seul mot, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je suis obligé de faire circuler leur capacité et la mienne à cet endroit-là. C'est ça qui m'intéresse.
Parce que Annie Ducol a, pour le coup, relevé dans certains textes officiels qu'il fallait renarcissiser les élèves. Vous, au contraire, vous utilisez le mythe de Narcisse à l'inverse en disant que Narcisse, c'est l'œuvre et que précisément le lecteur est l'écho. Et donc vous faites de écho l'allégorie de la lecture comme capture, comme formulation, comme dévoration, d'autant de ready-made même.
Des morceaux de... Oui, de, puisque c'est cette idée du morceau de phrase qui se répète, de l'écho qu'on va essayer de capter au passage. L'idée, c'est de pas se... C'est plus une affaire de là, on pourrait à un moment citer Deleuze, quoi, de reconnaître et de se reconnaître dans une œuvre, y retrouver des symboles. C'est de se surprendre soi-même, quoi, dans cette captation, par exemple, par la fenêtre, hein, au dehors, d'un détail qui n'a rien à faire là. Et c'est vraiment, j'insiste sur l'idée de... non pas ne pas se reconnaître au sens d'une sorte de nouveauté absolue, mais c'est par exemple insister d'un seul coup sur cette condition, en l'occurrence architecturale, des grillages dont on parlait, c'est de voir ce qu'on n'avait pas vu alors que c'était là depuis toujours d'une certaine manière, c'est de s'inventer une perception nouvelle. Donc cette idée de pas Narcisse, oui, il y a l'idée de peut-être de se réinventer. Alors, il y a un nouveau narcissisme. Et quant au fait de les narcissiser, moi, j'en fais en tout cas l'éloge, je leur rends hommage par le livre, en montrant non seulement qu'ils peuvent servir d'exemple à la pensée de Deleuze et de l'improvisation ou de l'imprévu chez Deleuze, et de cet événement, justement, qui, dans les signes qu'ils trouvent de Deleuze chez Proust, hein, qui donc vont forcer à penser différemment, vont nous faire violence, justement, nous empêcher de nous reconnaître et de reconnaître ce qu'on a l'habitude de reconnaître. Il y a cette idée aussi que ces prises de parole, elles vont me permettre de mieux comprendre ce que je disais tout à l'heure, hein, cette pensée de l'apprentissage, et voire même le thème de la pédagogie, sur lequel je suis retombé en relisant Deleuze, dès les premiers textes jusqu'au texte sur le cinéma, en fait, grâce à mes élèves. Donc, je ne sais pas si c'est les narcissiser, mais on sent en tout cas dire qu'il y a une dignité égale, et c'est le point de départ de mon travail. C'est non pas dire qu'une parole d'élève, c'est la même chose qu'un traité de philosophie, mais c'est essayer de dire, dans cette espèce de juxtaposition d'ailleurs qui pose peut-être problème, c'est pas du tout un texte théorique, mais qui va vers la théorie à partir de ces prises de parole. Voilà. Et c'était l'idée, oui, d'une sorte d'équivalence au départ, pour voir, évidemment que ça peut brusquer nos habitudes d'ailleurs, mais d'équivalence de mon attention, en tout cas, mon attention se porte de manière équivalente à des prises de parole d'élèves et à des éléments de théorie, beaucoup plus élaborés évidemment.
Oui, parce que vous étudiez aussi à quel point un texte de Sénèque peut être hors sujet quand on le ramène dans une classe ou sur la table des élèves. Mais alors, à propos de narcissisme, Annie Ducol, vous relevez que la notion de miroir telle qu'elle est travaillée par les textes, les textes et les programmes est autrement problématique, puisque là aussi il y a certaines perles. Vous relevez par exemple, les cibles de l'évaluation sont définies en miroir des objectifs généraux pour suivi par la séquence. Ça semble vouloir nous enfermer dans l'idée qu'on ne pourrait plus rien demander aux élèves que ce qu'on a prévu de leur faire dire, quoi.
Oui, bien sûr, mais vous aurez sans doute deviné que je ne suis pas foncièrement en accord avec les dernières directives.
Vous êtes même une décrocheuse, en fait.
Je ne pense pas que ce soit moi qui décroche. Je pense que ceux qui décrochent le plus, ce sont ceux qui se sont éloignés des élèves, des classes, et qui nous font des brillants exposés de pédagogie virtuelle, parfaitement hors tout. Hors réalité vécue. Je pense que quand on nous demande, quand on nous donne comme exemple de séquence, puisqu'on nous a donné il y a quelques années des obligations de présenter des séquences de cours d'une manière rigoureuse, rigide, figée, qui partait peut-être d'un bon sentiment pour uniformiser un petit peu les connaissances de tous les gamins, de tous les collèges de France en musique. On nous donne par exemple comme exemple de séquences de sixième. Qu'est-ce qui relie les théories grecques de la musique et la physique acoustique au chant diphonique et au blues? L'élève étudie le lien entre les sons harmoniques, l'accord de la guitare, la construction de la gamme pentatonique et l'héritage de Pythagore. Et donc, les cibles de l'évaluation sont définies en miroir des objectifs généraux poursuivis par la séquence. Et moi, je ne sais pas faire ça. Je n'ai jamais fait ça et je ne sais pas faire, je n'ai même pas essayé. Et je pense que... Alors, plus on s'éloigne du... Moi, on voit nulle part collectif, plaisir de travailler ensemble, plaisir de faire partie d'un, aussi d'un chœur, puisque nous, par rapport à l'oral, par rapport à ce que vous disiez, évidemment, quand en musique, on chante, on intervient, on réagit, on interagit forcément. Et puis, le but est aussi de chanter ou de faire, de participer à un projet musical, un projet artistique. Le plus souvent, moi je l'ai toujours fait avec d'autres collègues ou d'autres institutions culturelles pour ouvrir, sortir de nos 50 minutes de matière qui ne sert à rien et élargir un petit peu la perspective des élèves, mais les inclure là-dedans. Quand je relis les textes officiels et qu'on nous dit par exemple, je pense que vous allez comprendre ce que ça veut dire. L'élève apprend dans le domaine de la voix et du geste à mobiliser son corps pour s'exprimer avec sa voix en tenant sa partie. Hauteur, dynamique, timbre, à tirer parti de son geste vocal pour moduler son expression, timbre, dynamique, phrasé. Et en soulignant la structure phrase, à coordonner son geste vocal avec celui des autres, le sentiment et l'émotion étant les révélateurs d'une réalité complexe et permettant de comprendre les significations portées par la musique, ce qui veut dire chanter. D'ailleurs, ils ont oublié de dire qu'il fallait respirer. La respiration, c'est quand même important pour arriver à chanter correctement. Bon, ça, voilà, je lis ça, je le note, puis je le mets dans un classeur. Et puis, je travaille comme Jean.
Et vous laissez le classeur à la maison.
Et je laisse le classeur à la maison, évidemment. Ouais. Je le sors que pour une éventuelle inspection. Et je fais de la musique. Et j'essaye de faire de la musique, parce que c'est plus difficile à faire. Que d'obéir à des
référentiels
cases.
De compétences. On a...
Des référentiels de compétences. Ou bien alors diriger la classe et faire en sorte que la musique se commente elle-même pour mieux dégager le sens qu'elle porte. Ou bien les options facultatives sont proposées aux élèves partout où elles existent. C'est gentil. Et d'ailleurs, il y en a de moins en moins. Voilà, vous voulez peut-être que j'arrête là sur ce chapitre.
Non, on va écouter un certain Ernesto dans le film En recherchant de Straub et Huillier. C'est un texte de Marguerite Duras.
Je ne retournerai plus à l'école.
Pourquoi ?
Parce que, à l'école, on m'apprend des choses que je ne sais pas.
Tiens !
Un petit brin, 9 ans, des lunettes. Fait pas grand bruit, faut dire.
Non, je ne vois pas d'Ernesto.
Personne ne le voit, n'a l'air de rien.
Amenez-le-moi.
C'est vous, Ernesto ?
Exact.
En effet, je ne vous reconnais pas.
Moi, je vous reconnais.
Vous voyez le genre.
Alors, on refuse de s'instruire, enfant Ernesto ?
Exact.
Et pourquoi ?
Parce que ça a duré longtemps, très longtemps.
L'instruction est obligatoire.
Pas partout.
On est ici.
Ici, on n'est pas partout.
Si.
Et lui alors ? Qui c'est lui ? Hein ?
Un bonhomme.
Et ça ? Au moins ça ? Dis ce que c'est, Ernestino.
Un crime.
Et ça, c'est un ballon de football, une pomme de terre ?
C'est un ballon de football, une pomme de terre et la terre.
Un crétin. Voilà ce que ce sera.
Non, faut pas t'en faire.
Mais c'est quand même triste.
Non, pas du tout.
Tu crois ?
Sûr.
Alors, il faut dire, puisque nous n'avions pas l'image, que quand il est question d'une pomme de terre, donc c'est bien un globe terrestre qui apparaît, un crime, c'est pour un papillon épinglé sur un mur, et un bonhomme, c'est pour le président de la République. Le cinéma de Straub et Huillier, pour vous, Guillaume Gévray, c'est l'occasion de saisir une désynchronisation entre son et image, et cette désynchronisation est celle donc, de ce qu'on pourrait appeler un décrochage positif.
C'est ça, entre voix et image même en particulier, oui. C'est-à-dire qu'il y a tout un jeu, là par exemple ici, sur la désignation, sur la possibilité du langage de désigner, alors que, et c'est une analyse que développe Deleuze à nouveau, ici l'enfant a tendance à aller voir au-delà, en dessous, hors champ, à côté, à jouer sur toute une série de perceptions enfouies, dire que... Au fond, le papillon accroché par une épingle, c'est un crime, c'est pas si faux. Simplement, il faut peut-être le réinscrire dans une histoire. Bon, donc il y a tout un jeu ici entre ce qu'on voit et puis ce qui est caché en dessous, plus ou moins imaginairement ou ici dans cette vitalité aussi du jeu enfantin qui va s'amuser à aller bien au-delà et à faire d'un bâton, on connaît ça par cœur, le fait de jouer avec peu de choses aussi. Ça revient à l'idée d'une modestie, en tout cas des moyens, mais pour des effets plus originaux, plus créatifs. Et on retrouve tout ça, en fait, c'est un exemple parmi d'autres, sur Béhuyer, que ce soit celui-ci ou Moïse et Aaron, dans un sens beaucoup plus... Enfin, très différent, mais...
Moïse et Aaron, c'est aussi le bégaiement de Moïse qu'en lecteur de Deleuze, vous voyez comme un lieu d'ébranlement du langage qui vient révéler qu'à peine a-t-on tremblé un phonème que déjà on a problématisé l'expression.
C'est ça, de Deleuze, de Beckett, de Gerasim Luka.
On y viendra dans un épisode bégayé tout prochainement dans Métaclassique. Avec Peter Sandy et Damien Bonnec. Alors, je vais vous faire entendre une phrase d'un texte officiel qu'a relevé Annie Ducol. Vous allez me dire si vous êtes au raccord pour le coup. Il faut travailler à partir de la problématique de la construction de l'identité et de l'estime de soi, en amenant les enfants à construire un personnage dont l'identité soit pensée comme plurielle et comme singulière.
Oui, je suis un peu comme mes élèves, je suis un peu distrait des fois, j'ai pas tout suivi. Mais pluriel et singulier, qu'est-ce qui est pluriel et singulier ?
C'est l'identité de l'élève telle qu'elle a été construite par un personnage sur lequel on l'a amené. Par le travail d'une problématique de la construction de l'identité, de l'estime de soi.
D'accord, bah, l'identité de l'élève, moi c'est un prénom, c'est une voix de temps en temps, c'est pas beaucoup plus. Et par contre que dans ces prises de parole... Il y a quelque chose, peut-être pas comme une identité fixe, mais qui est en train de se construire, en train de faire avec sa mémoire personnelle ou plus que personnelle. On parlait de crime tout à l'heure, c'est pas rien qu'un crime apparaisse dans la bouche d'un enfant. Qu'est-ce que ça vient dire d'un hors-champ, justement, de la parole ? Moi, en tant que les programmes existent, c'est pas vraiment mon enjeu, je les connais pas par cœur moi non plus. Hein.
Cela dit, vous pourriez y trouver l'expression poétique de l'élève. Hein. Vous l'avez trouvée et vous l'illustrez pour le coup.
Peut-être que je suis complètement dans les clous, en fait.
Puisque quand vous leur faites faire l'exercice de chercher un détail inhabituel dans le quotidien, ils trouvent une serrure un peu trop dorée, un croissant dans une vitrine, de l'eau qui manque dans une fontaine asséchée.
Oui, cette idée que ça manque, en l'occurrence. Ce n'est pas le cas dans tous les lycées de France, peut-être. Donc, il y a quand même cet enjeu plus grave, mais un endroit de légèreté. C'est un endroit où, comme je disais tout à l'heure, on prend le temps de trouver autre chose à dire, de trouver en tout cas des éléments qui nous ramènent à un réel qui, autrement, en effet, habituellement pour les élèves, ne correspond pas dans les textes. Mais c'est un enjeu plus traditionnel, plus classique, de dire qu'on va même avec un texte ancien, d'ailleurs mes références sont assez anciennes, aller chercher... du très proche et puis à nouveau remettre du lointain. Il y a un va-et-vient à faire avec les représentations des élèves, avec leurs habitudes. Évidemment,
c'est la mise en perspective.
C'est la mise en perspective. C'est le cours dialogué qui va permettre aux élèves de prendre la parole de manière différente. Donc c'est une des conditions qui existe depuis maintenant un certain temps. Moi, je m'intéresse aux exceptions. Quand même. C'est un endroit où autre chose peut-être apparaît. Non pas par goût de l'exceptionnel, du sublime d'un seul coup. Ça peut être très ordinaire, ça peut être des mots très simples aussi. Mais je répète, ça va produire pour moi, et justement dans cette idée d'un effet de ces prises de parole, une recherche du côté, on parlait du cinéma, avec cette disjonction entre la voix et l'image, ça me permet de mieux comprendre comment c'est, par exemple, d'autres films de Duras qui opposent une image de Paris à 5h du matin dans les années 70 et la voix de Duras qui nous parle d'une histoire préhistorique.
Des mains négatives.
Voilà, des mains négatives, c'est-à-dire qu'il est question de préhistoire dans la voix. Or, au passage d'un fantôme blanc, la voix nous parle d'un fantôme blanc et on voit apparaître un échafaudage blanc. Est-ce qu'on a cru voir ? Est-ce que c'est une hallucination ? Est-ce que d'un seul coup, la voix a enfin repris son pouvoir de désignation ou pas ? Et je me dis que ces prises de parole hors sujet, elles ont une vertu, c'est-à-dire de vraiment même nous permettre de relire tout ça, de leur redonner une richesse sensible, tous ces questionnements et philosophiques et esthétiques. Mais c'est grâce à eux, voilà, c'est un peu là-dessus que je veux surtout insister.
Annie Ducol, vous avez lu Un léger désordre, le livre de Guillaume Gévray. Vous avez relevé quelques phrases comme « La parole décale la vie hors d'elle-même ».
Oui, alors, c'est parce que, donc, pour moi, enfin... La parole, surtout dans mes zones sensibles, qui éclate dans tous les sens, qui prend la place. Enfin, chacun a son personnage qu'il veut défendre. Et donc, quand la parole se met à exploser en zone sensible à 30 gamins pour tout et n'importe quoi, ou à propos d'un petit papier que je leur ai chopé sur lequel il parlait de tout autre chose. Souvent, ça explique des attitudes. Alors, ça monte très, très vite. Ils deviennent assez violents quand ils sont un petit peu mis en défaut. Et donc, c'est pour ça que moi, j'essaye plutôt systématiquement, une fois que le décalage est allé trop loin, surtout sur l'attitude, de poser les choses, de non pas dire « va voir le CPE » ou bien « je fais un rapport » parce que, à mon avis, c'est vraiment, ça ne sert pas à grand-chose. En revanche, après un certain retour au calme, de permettre un petit peu de recul. Bah, écoute, je prends les élèves en question quand ils ont vraiment déraillé, quand ils ont vraiment, par exemple, fait un bulletin sur leur professeur en accusant « Madame Ducol est une crâneuse de musique », par exemple. Donc, il y a tout un truc. Monsieur Lucio est une pédale, bon, etc. Et tous les profs y passent. Et donc, je lui ai dit, écoute, là, non. Alors, j'arrête le dialogue. En revanche, l'élève en question, le dialogue, enfin, les réactions de la classe. En revanche, l'élève en question, je le prends ou je la prends à part. Je lui dis, écoute, on va réfléchir parce que là, c'est pas possible, ça ne convient pas. Et donc, c'est une attitude. D'abord, on se calme, on écrit. Au contraire, je faisais écrire en tout cas. D'abord, ça les apprend à écrire un petit peu, ça leur apprend à écrire, et puis leur faire comprendre leur décalage par rapport à leur attitude, aux choses qu'on peut dire, pas dire, la manière de le dire. Alors souvent, ils ont un premier jet dans lequel ils disent « Oh mais non, mais j'ai pas dit ça, vous avez pas bien compris », ou bien « C'était pas moi, c'était ma cousine ». Après, je leur dis « Non, mais écoute, on continue », et ça peut durer longtemps. Et des fois, j'ai des versions, enfin j'en ai 5 pages, 6 pages. Et quand c'est un combat entre deux personnes, parce qu'il y a eu des coups de couteau, il y a eu quand même des feux mis aux cheveux de la voisine ou des choses comme ça, quand ça va plus loin, il faut comparer, enfin confronter les diverses versions. Et je pense qu'une fois qu'on a fait tout ce travail, qu'ils sont allés le plus loin possible, je pense qu'ils ont peut-être réussi à aller un petit peu plus loin que si on leur donne une heure de colle ou qu'on les met à la porte. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, pour rejoindre la musique, je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez que je dise, mais...
Non, il y a l'histoire de Nassim aussi, oui. Qui,
ah oui, alors Nassim, c'est génial.
Qui réagit à une phrase de Guillaume qui dit « Dans les quartiers sensibles, on les désoriente pour qu'ils s'orientent eux-mêmes. »
Oui. Mais ça, alors pour moi, ça, mais je ne sais pas du tout si j'ai compris ce qu'il fallait comprendre, mais ça m'a fait penser à diverses choses. Par exemple, que... On pense effectivement, on ne sert à rien, et pour vous rassurer sur le fait que vous êtes dans la norme, ou bien que vous ou vous rassurer sur le fait que vous l'êtes pas tant que ça, c'est que moi je n'ai aucun, on n'a pas de programme sinon formel avec des phrases qui ne font jamais appel au plaisir partagé, à l'émotion musicale et tout ça. Je n'ai pas d'œuvre, je n'ai pas de manuel, je n'ai rien du tout. C'est moi qui choisis les œuvres que je veux faire étudier, c'est moi qui choisis la manière d'organiser mon cours et l'évolution du cours sur l'année, etc. Donc c'est beaucoup plus simple. Et ce qui est amusant, c'est que cette matière dans laquelle ils arrivent vraiment en se disant « bon, là je ne risque rien », ils finissent par s'apercevoir que ça peut, en leur faisant passer ce qu'on est, et puis aussi ce qu'on sait, parce qu'on a une hotte pleine de ressources quand même, pour faire face à toutes les attitudes qui vont nous exploser à la figure, ça peut leur permettre de reprendre un petit peu confiance en eux. Et j'ai jamais eu tant d'élèves à la chorale, qui ne sert à rien, qui n'est pas noté, qui n'a rien du tout, que quand j'étais dans ma zone sensible la plus chaude, parmi celles où j'ai sévi. Puis, en plus, ils apprennent plein de choses. La responsabilité collective, c'est important. S'il y en a un qui finit, qui dit une parole un temps après les autres, quand tout le monde a fini, c'est la honte, comme ils disent, et donc c'est raté. Et donc, ils ont une notion de responsabilité collective qui s'apprennent comme ça. Et quant à mon cher Nassim, c'était un gamin qui était déjà très impliqué dans les trafics locaux, si on peut dire, et qui donc avait profité d'une répétition dans une banlieue voisine pour quitter la répétition et aller faire son trafic dans la commune voisine. Et alors je me suis inquiétée parce que je voyais bien qu'il n'était pas là. Quand il est revenu, la fleur à la boutonnière, sourire sur les lèvres, je l'ai alpagué violemment, très violemment, en lui disant qu'il me dégoûtait parce que je lui avais fait confiance, etc. Et c'est vrai qu'il faut être très ferme, parfaitement juste, sinon on risque gros dans des banlieues chaudes. Et ça lui a permis, en lui disant « je ne te veux plus, je ne veux plus te voir, tu me dégoûtes, je ne veux plus te voir, tu ne viens plus à la chorale, tu ne fais plus les projets ». Et là, je l'ai vu blêmir, fondre, et puis me dire « si, si, madame, gardez-moi, gardez-moi ». Et ça m'a impressionnée, c'est pour ça que je le cite, c'est parce qu'ils sont sur la corde raide souvent, ces gamins-là, et mine de rien, avec leur provocation, ils cherchent quelque chose qui va pouvoir leur redonner l'envie d'être quelqu'un de bien, l'envie de ne pas sombrer, l'envie de ne pas s'écrouler. Et il m'a supplié de le garder à la chorale. Je l'ai gardé jusqu'au bout. Et à la fin de l'année, j'ai revu mon Massime, qui avait déjà au moins 14 ans, danser la pavane en collant parce qu'on faisait un projet sur le Moyen-Âge. Et il a tenu jusqu'au bout. Et là, j'étais fière de lui parce qu'il a tenu jusqu'au bout. Et si vous me permettez, mais je n'ai peut-être pas le temps.
Pourquoi pas ?
Je voulais vous dire, vous donner aussi, ça me fait penser à un exposé de troisième où je leur disais de choisir, je leur donnais un plan précis, après à eux de me proposer une musique sur laquelle ils faisaient un exposé. Et pour une chanson d'un rappeur que j'ai oublié, ce qui m'a impressionné, c'est que c'est un espèce de désir de moralité. Ils arrêtaient, c'est une chanson qui parlait de respect. Et puis ils me disaient, dans leurs commentaires que j'ai relevés, parce qu'ils me l'ont rendu, ça a un bon rythme, un bon style. C'est une musique qui nous enseigne, qui nous donne des bonnes voix, V-O-I-E-S. Ça me parle parce que je suis proche de la drogue et de la violence. Ils disent qu'il ne faut pas tomber dans la délinquance. Ils incitent à le reprendre les cours. Ils informent sur la fonction de l'État. On devrait y penser, aide à sortir de la délinquance avec des mots précis adaptés à la rue. Leur discours mélodique donne l'impression que c'est nos parents qui parlent en chantant. Moi, ça m'a impressionné. Enfin, je me suis dit que finalement, on servait parfois à quelque chose.
Voici un extrait de Don't Blame Me de Thelonious Monk. J'ai vrai, dans ce phrasé quasi toujours à contre-temps, vous entendez un exercice de désynchronisation ?
J'entends déjà l'idée que ce contre-temps, il produit un plaisir, une attente, un déséquilibre qui en fait est l'enjeu même de ce qu'on écoute. Je me souviens même de cette idée de ghost note, je crois, chez Thelonious Monk, qui consiste à faire entendre une musique, une note qui n'est pas jouée. Mmh. Donc, y a cette idée d'une évolution qui fait avec le décrochage, pour le coup, rythmique, alors si c'est la métaphore en jeu.
Et vous dites, page 113, que la désynchronisation est le véritable ennemi du complotisme. Et le complotisme est un thème qui revient beaucoup dans votre livre « Un léger désordre ».
Ça fait partie de ces moments d'ailleurs d'écriture plus risqués, plus personnels. Il y a une part de témoignage de la condition, y compris difficile, dont on parlait de ces établissements. Mais c'est aussi un travail d'écriture et qui implique une intimité parfois, tel souvenir d'enfance, une prise de parole élève, et puis un sujet même d'actualité brûlant qui va trouver son éclairage peut-être un peu original, en tout cas à partir de ce mélange, de ces ingrédients un peu... juxtaposé, articulé, on ne sait pas si ça colle, si le rythme s'enchaîne bien, un peu comme ce qu'on vient d'entendre. Et à cet endroit un peu confus, un peu difficile, apparaît justement la confusion de certains élèves, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut peut-être la remettre en scène, cette confusion, essayer de la retrouver, de la prendre au sérieux, pourquoi pas. En l'occurrence, si je dois évoquer ce moment, vers la fin d'ailleurs, qui m'a déclenché, je répète, des associations assez étonnantes. C'était presque un travail d'écriture, en fait, de faire avec la phrase... Est-ce que ça a vraiment eu lieu concernant l'histoire d'Ulysse et du Cyclope ? Qu'est-ce que ça a vraiment eu lieu qu'il se fasse appeler personne ? Enfin, on connaît ça bien, normalement. Bon, voilà, ça, c'est une chose connue, mais qui, d'un seul coup, prend un éclairage incroyable. Est-ce que ça a vraiment lieu ? À la fois, c'est une phrase, on est à la limite, en effet, de quelque chose de complètement à côté de la plaque. Évidemment, c'est le plus difficile à prendre au sérieux, une phrase pareille, sauf que c'est le réflexe complotiste de dire est-ce que ça a vraiment eu lieu. Et donc, je me suis mis à cet endroit-là, essayer de reprendre tous les éléments de cette histoire, y compris la magie de la fiction. On est censé suspendre son incrédulité, comme dirait Coleridge, c'est-à-dire y croire. Et c'est toute cette question-là qui s'écrit vraiment à la limite de ce qu'on peut supporter comme hors-sujet, comme question imprévisible. Bon. Et donc ça met aussi en demeure d'y revenir, d'y s'y rendre attentif malgré tout. On n'a qu'une envie, c'est de le mettre de côté, le maintenir, même ce point-là, qui semble moins peut-être grandiose, lucide, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque c'est le contraire, mais quand même, s'y rendre attentif à ce point-là. En effet, ce sont des sujets qui reviennent, des certitudes, des espèces même de dogmatisme contre lequel il faut se battre, évidemment qu'il n'y a rien d'angélique dans ce travail, reviennent des termes et des notions et des éléments discriminatoires et toute une série de certitudes, mais qui sont de fait malléables, qu'on va pouvoir reprendre, qu'on va pouvoir interroger. On va pouvoir faire jouer, nous aussi d'ailleurs, des effets de surprise par rapport à ça. C'est vraiment une sorte de brèche qui s'ouvre dans le cours et qui laisse sans voix. Donc ça m'obligeait d'y revenir grâce au livre aussi.
Et puis aussi de vous renforcer par rapport à la position que vous occupez vis-à-vis des théories du complot devant lesquelles vous vous trouvez dans ces moments-là. Vous dites « L'effet de la société de contrôle est peu ou prou le même que celui des complots censés la dénoncer désormais. »
Oui, il y a une sorte de cadre là qui est finalement très rassurant, qui va revenir stabiliser et à des endroits d'angoisse maximale. Que le Covid, par exemple, soit une affaire de complot, etc. Bon, c'est un endroit extrêmement angoissant parce que ce qui revient, c'est évidemment la violence, mais c'est l'angoisse du moment, c'est l'étouffement à la fois économique, politique, écologique. Tout ça revient sans arrêt. Donc c'est aussi la responsabilité alors, du professeur, si on veut y revenir. Même si mon travail, ce n'est pas seulement un témoignage de professeur, hein, puisque c'est aussi ce qui sort de cette institution qui m'intéresse. Mais à cet endroit-là, qui est une affaire de responsabilité, c'est essayer de remettre en jeu peut-être pas une explication qui viendrait en fait nourrir le complot autrement, mais aussi se rendre sensible à ce qui ne s'explique pas, à ce qui surprend, à ce qui laisse en suspens aussi bien. Et c'est un enjeu quand même de l'étude littéraire ou artistique aussi bien, sans doute.
Et puis il y a une autre image qui traverse vos réflexions, c'est celle de la nage. Dès le début du livre, ça commence par un bourbier ou un désert. Il faut apprendre à ne pas trop s'embourber. Quand on a la chance de s'éloigner, on découvre que l'océan dans lequel on nage n'est pas le bourbier du commencement. Et puis vers la fin de l'ouvrage, vous revenez sur cette nage à vous demander presque si le maître nageur ne serait pas une espèce de voix tierce dans l'opposition que fait Deleuze entre l'instructeur narcissique et le professeur masochiste qui veut tellement se mêler de l'émotion de ses récepteurs qu'il s'y perd.
Alors oui, il y a cet exemple qui vient à la fois de Deleuze et de Bergson. À un moment, il est question justement d'apprendre à nager, comme peut-être apprendre à lire, c'est une métaphore. Et il est question de ces vagues, même si c'est un peu bizarre d'apprendre à nager dans les vagues, mais de cette idée qu'un peu comme ce que j'évoquais tout à l'heure, de ce que ça a de risquer, d'éprouvant, de pas forcément reconnaissable, l'obligation d'improviser. C'est la phrase de Deleuze dans différentes répétitions sur le maître nageur qui dit non pas fait comme moi, mais fait avec moi. Non pas comme modèle stable avec cette idée de répétition du même, mais de part d'invention aussi dans l'apprentissage de la nage, le fait de faire avec les vagues, comme plus tard avec les signes, comme plus tard avec le mot et la chose qui ne colle pas, et puis ce qui se passe quand on se risque à voir ce qu'on ne regardait pas jusque-là, donc comme ces élèves en question. Donc l'idée de l'apprentissage de la nage, c'est aussi l'idée, je crois déjà chez Bergson, de faire l'épreuve de l'impossible. C'est impossible de nager quand on se met face à la mer. Et c'est cet impossible qui va se transformer en action. On va s'y mettre d'une certaine manière. Donc quand ça prend peut-être une dimension plus politique, que l'impasse est quand même le thème quotidien, qu'on est sans arrêt finalement pour ces élèves ou leurs familles en situation de demande, d'angoisse par rapport y compris à l'avenir, pour des élèves, que c'est vraiment un thème très régulier, y compris ces derniers temps. Qu'est-ce que c'est que de s'y mettre? Qu'est-ce que c'est que de prendre le risque, finalement, d'utiliser cette métaphore, par exemple, qui, je crois, à cet endroit, prend vraiment une saveur et une puissance assez, assez politique et pédagogique. Pédagogique, c'est un mot qui revient, qu'on étudie, je crois, assez peu chez Deleuze. On parle d'apprentissage du cygne, qui est l'apprentissage solitaire, mais au fond, il y a de l'autre dans les parages. Donc le maître nageur, qui dans différentes répétitions, au fond, n'évolue pas de son côté, il reste le maître nageur, c'est l'élève qui l'apprenti, comme il dit, qui apprend. Mais il y a cette question, je crois, qui serait intéressante d'appliquer une notion plus tardive de Deleuze, qui est celle du devenir, comme double devenir, où les deux termes se transforment mutuellement. Ça ne veut pas dire que l'élève devient le maître et le maître l'élève. C'est intéressant d'y revenir. Ça veut dire que nous, en tant que professeurs, on est aussi transformés, touchés, on évolue, notre attention, notre compréhension évolue. Et c'est ça l'idée, c'est d'essayer de se rendre attentif, pas dans une fusion, peut-être comme vous disiez, complètement pathétique avec ce qui se dit. Il faut être capable aussi de jouer la distance, parce que c'est cette distance-là qui va permettre de s'inventer une subjectivité qui s'affirme, qui a quelque chose à dire, qui ne reste pas dans l'immobilité, dans le silence, comme souvent les élèves, qui sort de ce que Barthes appelle l'inertie de la parole. Donc on se met en mouvement et son corps avec soi et son désir peut-être y compris de se battre contre ces conditions qui sont faites en effet dans ces zones-là, dans ces banlieues en question dont on parle récemment beaucoup. Voilà. Et ça vient à cet endroit-là aussi, ce travail. Donc la métaphore de la nage, j'ai essayé moi de lui donner cette saveur-là.
Donc il s'agit d'apprendre et cette image, Annie Ducol, elle vous a percuté quand vous vous êtes sentie jetée à l'eau sans les bouées.
Oui. Oui, mais j'entends très bien ce que vous dites, parce que, oui, on a l'impression, même si on a fait des années d'études à l'université, quand on est confronté à une vingtaine de classes, puisque c'est le cas en musique, c'était
vous avez potentiellement 700 élèves par semaine.
Ben, ça dépend des collèges, mais quand c'est un collège 700, on est censé faire une heure de musique à chacun, donc on a des heures supplémentaires, et jusqu'en 2002... Et parce qu'on s'est beaucoup battu, on devait 2 heures de plus que les autres matières, parce que c'était une matière qui était considérée comme n'ayant pas de préparation, puisque n'ayant pas de manuel, pas de programme précis. Et donc, effectivement, on a l'impression d'arriver avec des années d'études théoriques, et puis d'être au bout d'un quart d'heure, d'avoir envie de fermer son cartable et de repartir sur la pointe des pieds. Et c'est pour ça qu'on passe notre temps à nager et à faire nager les élèves. Effectivement, pour arriver petit à petit à être de plus en plus à l'aise, mais il faut avoir une hotte quand même pleine de ressources dans laquelle piocher tout le temps pour faire face à n'importe quelle situation qui ne manqueront pas d'arriver, qui ne seront jamais les mêmes, bien sûr, jamais celles qui étaient prévues, mais y faire face avec tranquillité et puis même quelque chose de constructif. Rebondir là-dessus pour aller plus loin, pour nous donner des idées et aller un petit peu plus loin. Je pense d'ailleurs que si on mettait dans le socle commun la culture humaniste, les compétences sociales et civiques, l'autonomie, l'esprit d'initiative, avant la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication, on arriverait peut-être à former les élèves d'une autre manière qui serait, à mon avis, plus intéressante et plus apte à faire face à ce qui se passe en ce moment, par exemple, ou à savoir nager.
Merci beaucoup, Annie Ducol. Merci, Guillaume Gévray. Et puisque je vous avais promis une surprise pour terminer l'émission, eh bien, voici un exercice auquel j'ai fait jouer des élèves de l'école Barbanègre. Il s'agissait de nager avec Yankelevitch dans La danse macabre de Saint-Saëns qui ouvrait l'émission.
Les staccato au piano, les pizzicati, les pizzicato au violon. Alors il est convenu que ça annonce quelquefois l'humour, mais ça peut aussi bien annoncer le tragique, par exemple d'une danse macabre. Vas-y. La danse macabre.
Des pizzicato et des staccato, mais ça peut très bien allonger le trajet.
Par exemple, une danse macabre.
Une danse macabre. Une danse macabre. Staccato, legato, ça peut très bien allonger. Par exemple, une danse macabre, les macabres.
Les staccato au piano, les pizzicati et les pizzicato au violon. Alors, il est convenu que ça annonce quelquefois du mouvement. C'est
tragique. Par exemple, dans ce macabre. Il disait la danse macabre. En fait, il est énervé, ça, on comprend très bien. Mais par contre, moi, je vois de quoi il veut parler, mais c'est comme s'il voulait expliquer quelque chose pour. C'est comme s'il voulait expliquer pourquoi il était contre en étant un peu énervé.
Les staccato. Au piano, les pizzicati, les pizzicato au violon.
Vladimir Yankelevitch, en fait, il disait toujours les pizzicato, les pizzicati. Non, on comprenait rien, mais il parlait en français, mais il parlait hyper vite, on dirait.